Voilà, bonjour frères et sœurs. Ça fait plaisir d'être ce matin avec vous par ce beau temps estival. Voilà, la bienveillance, ô Éternel. Eh bien, on va entrer dans cette bienveillance. On va voir avec quel tact le Seigneur s'adresse à nous. Alors, on rentre vite dans le vif du sujet. Allez, Apocalypse, carrément, hein, n'ayons pas peur des mots. Apocalypse au chapitre 1er. Et on va commencer à partir du verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Quel texte, quelle richesse dans ce texte. Mais on fait toujours un survol. Mais en lisant ce texte, il y a une chose importante à se rappeler avant qu'on aille dans ces sept églises de l'Apocalypse. Une chose importante à se rappeler: celui qui nous écrit ces sept lettres, c'est celui qui nous aime. C'est celui qui nous aime et qui l'a prouvé en mourant sur la croix pour nous. Mais avant d'entrer dans ces sept églises, rassurez-vous, on va faire vite, hein. On va être assez rapide, hein, parce que notre sœur nous a dit qu'à certains endroits, on mange à 2h30. Donc, pour 5h, c'est bon. Voilà. Mais avant de rentrer dans ces sept églises, j'aimerais qu'on aille rejoindre un bien-aimé. Puisque c'est celui qui nous aime qui nous écrit, donc nous sommes ces bien-aimés. Mais on va aller rejoindre un bien-aimé qui est dans la difficulté. Ça arrive au bien-aimé d'être dans la difficulté, n'est-ce pas? Hein? Alors, accompagnez-moi, si vous le voulez bien, dans la première de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 30. Ce bien-aimé, c'est son nom, ce que son nom indique, David, le bien-aimé. Et au chapitre 30, il nous est dit: « Lorsque David arriva le troisième jour à Sligag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays et à Tsligag. Il avait détruit et brûlé Tsidlag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été enlevées aussi, et David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. On voit que là, ce bien-aimé est dans une détresse terrible. Et même ceux qui l'accompagnent, même ceux qui ont vécu des choses extraordinaires avec lui, parle même de le lapider. C'est chaud des fois, hein, entre dans le peuple de Dieu, c'est chaud, mais quand l'amertume est là, quand la souffrance est là, on a des réactions qui sont très difficiles. Mais pourquoi David est dans la difficulté? Pourquoi ce bien-aimé est dans une grande angoisse? Et tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui l'accompagnent sont dans une grande angoisse. Regardez dans 1 Samuel au chapitre 27. Chapitre 27. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. David, à un moment donné, dans sa vie, dans ce qu'il est en train de vivre, avec tous les ennemis qui l'entourent, à un moment donné, David perd patience. Il en a assez de fuir devant Saül. Et parfois, nous pouvons en avoir assez de fuir devant ce lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Et toute autre chose, tout autre problème qui vient s'y greffer. Et David en a assez. Il arrivera un jour où j'y arriverai plus, quoi. J'y arriverai plus. Alors, ce qui est bizarre chez David, c'est qu'il ne consulte pas l'Éternel. Il réfléchit en lui-même. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la solution pour moi? Et là, David va avoir une phrase terrible, terrible. Dans sa réflexion, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il envisage de faire, il nous est dit, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez l'ennemi. Oh, David, ton refuge, est-ce que ce n'est pas l'Éternel? Et là, David, tu vas te réfugier chez l'ennemi. Et au verset 3, il nous est dit, au verset 2, David se leva, lui et ses 600 hommes, et ils allèrent avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. Quand on commence à raisonner en nous-mêmes, dans nos difficultés, la tentation est de trouver une solution et de fuir. C'est ce que David fait. Il va aller se réfugier 16 mois, chez Achish. Achish veut dire « je serai noirci par la peur ». On prend un gros risque. Achish, fils de Maok. Maok veut dire oppression. Oppression. Il est oppressé déjà. Et quand on a la tentation de dire maintenant stop, j'en ai assez, je vais me trouver une solution, et puis je regarde les sirènes de l'adversaire. Et en allant sur ce chemin-là, on devient davantage noirci. Est davantage sous l'oppression de l'ennemi. Et David va aller se réfugier chez cet ennemi, et David va commencer à faire des choses insensées. Si on lit un peu plus loin, au verset 10, Achish disait à David et à tous ces gens, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos incursions ?» Et David répondait, « Vers le midi, vers le pays de Juda. » Il est en train de mentir, David. Il essaie de se faire bien voir par ce roi ennemi. Il essaie de gagner sa confiance. Et il ment au roi en disant, « Oui, j'ai été attaqué des tribus le long de la mer, là-bas, des tribus. » Et il faisait croire au roi qu'il allait attaquer les soutiens d'Israël. C'était des tribus qui étaient amies avec Israël. Et David est le roi à qui je croyais qu'il allait attaquer Juda, puis les amis de Juda. Mais non, David partait ailleurs. Mais David faisait croire que. Et ça réjouissait le cœur de ce roi Achish. Et lui, il était tout heureux, tout heureux. Et au verset 12, il nous est dit, Achish se fia à David et il disait, il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Il sera mon serviteur à jamais. Vous savez, quand on va se réfugier dans le camp de l'adversaire, c'est jamais gratuit. Jamais gratuit. Quand on a la tentation de repartir dans le monde et se rapprocher de plus en plus de ce monde, ce n'est jamais gratuit. C'est pour ça que le Seigneur nous disait, faites attention, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Et David a fait des choses incroyables. Il s'est mis à massacrer hommes, femmes et enfants dans ces tribus-là pour ne pas qu'il y ait un rescapé qui vienne dire non, David te ment. Voyez où en était arrivé David. Et malheureusement, j'ai eu affaire à des frères et sœurs qui ont suivi ce chemin-là. Et quand j'ai partagé avec eux pour voir où en était ta vie maintenant, mon frère, mais ils étaient repartis dans des choses insensées, insensées, comme David. Vous voyez, jusqu'où peut nous amener là, une souffrance, une situation difficile qui dure? Elle peut nous amener, comme David, comme ce bien-aimé, à partir et à faire des choses vraiment complètement en travers du plan de Dieu. Et c'est parfois difficile, difficile quand la souffrance est là. Résultat, David est là où il ne devrait pas être et maintenant il est dans une grande angoisse. On a attaqué le camp où il s'était réfugié et tout le monde est dans la désolation. Tout le monde est dans la désolation et David a tout perdu. David a tout perdu. Dans nos vies chrétiennes, parfois, frères et sœurs, dans nos combats, dans nos difficultés, nous pouvons subir des pertes. Et nous pouvons aussi nous faire voler par l'adversaire tout ce que notre Seigneur Jésus nous a acquis. L'adversaire est un voleur. Il nous vole nos bénédictions. Il nous vole nos talents. Il nous vole nos dons si nous ne veillons pas. Il veut se rendre maître comme ce roi a voulu se rendre maître de David. Il n'a pas changé. Il y a toujours les mêmes ruses. Toujours. Toujours. Il n'est pas créatif comme notre Seigneur. Il y a toujours les mêmes ruses. Et malheureusement, elles marchent encore. Malheureusement, elles marchent encore. Mais revenons. Revenons à celui qui nous aime. Pour voir sa bienveillance. Pour voir comment il vient nous parler. Nous parler pour nous amener plus loin, pour tenir notre esprit en éveil. Il vient nous parler. Vous savez, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des temps de réveil extraordinaires, extraordinaires, au cours des siècles. Mais il y a eu aussi des durs moments de sommeil, malheureusement. Et ces lettres, elles viennent s'adresser à toutes les églises de tous les temps, et pour nous aujourd'hui, non seulement collectivement, mais aussi individuellement, à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. On voit que la première chose que Jésus fait dans ces sept églises, il se présente d'une façon particulière pour chaque église. On n'a pas le temps de dire pourquoi ce matin, mais chaque fois qu'il se présente à une église, c'est spécifique pour cette église-là, pour cette église-là. Et quand Jésus vient nous parler, c'est pour toi personnellement, parce que tu es unique, parce que tu es unique. Et il vient dans ta circonstance, il vient dans ta situation, et il se présente comme tel, il se présente comme il doit être au moment où il doit être, comme il a fait pour ces sept églises, qui sont toutes très différentes. Et là, on va voir vraiment toute la pédagogie de Dieu quand il vient s'adresser à nous, personnellement. Et il se présente en étant ce qu'il est pour cette église. Et après, deuxièmement, il vient et il va leur dire aux sept églises, sauf à Sardes et à Laodicée, où il n'y aura aucun compliment. Mais il vient avec des compliments, le Seigneur, quand il vient nous parler. Il se présente et puis il vient. Et j'ai récapitulé ces sept églises en un parce que, comme je viens de vous le dire, on est tous différents. Alors j'ai regroupé tous les compliments qu'il a fait. Parce qu'il commence comme ça pour les cinq églises qui restent, à part Sardes et Laodicée. Alors j'ai tout regroupé parce que il s'adressera à toi d'une manière, il s'adressera à toi d'une manière, il s'adressera à moi d'une manière selon ce que je vis. Et quand je regroupais ça, il y a des fois ça, des pensées comme ça qui viennent, mais je regroupais ça et puis le Seigneur, il peut te dire à toi ou à moi, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais, et il sait tout, je sais que tu peux supporter les méchants, je sais que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qui ne le sont pas, je sais que tu as de la persévérance, je sais que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies qui se disent contre toi. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Mais je sais que là où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as malgré tout pas renié ma foi. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je connais tes œuvres. Quelques hommes parmi vous n'ont pas souillé leurs vêtements. Je connais tes œuvres parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Chacun prend pour lui. Voyez que le Seigneur connaît, il n'oublie pas, frères et sœurs. Il n'est pas injuste pour oublier le travail et tout l'amour que nous avons eu pour son nom. Voilà comment le Seigneur vient. Voilà, je sais ce que tu as fait pour moi. Et puis, il continue, le Seigneur. Il continue par des choses qui vont être peut-être moins agréables. Mais il est obligé de le faire. Alors j'ai regroupé ça. Alors il va s'adresser par quelques reproches, sauf à Smyrne et à Philadelphie. Mais le Seigneur va venir dans sa pédagogie et va dire, malgré tout, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, Jean-Noël, chérie, j'ai pas, peut-être pas tous les défauts que je vais dire là, hein, mais... J'essaie de progresser. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui est une pierre d'achoppement pour les chrétiens de l'Église. Et tu as laissé faire. Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous savez, la doctrine des Nicolaïtes, c'est quelque chose qui se présente, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mais que je chéris et que je n'abandonne pas. J'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. Et là, on a plein de pertes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Telle voie peut paraître droite même à un chrétien, mais son issue c'est la mort. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Seigneur, viens mettre le doigt sur les progrès que j'ai encore à faire. Il vient mettre le doigt. Jamais pour m'accuser, jamais, mais pour que je me rende compte et que je progresse, et que je progresse. Alors, le Seigneur continue à parler. Il continue à parler quand il nous fait des reproches, quand il nous fait des mises en garde. L'Épître aux Hébreux nous dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été faite comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et nous ne sommes pas exempts du châtiment parce que il nous aime. Il nous aime et il a plus pour nous. Alors il continue à nous parler. Il ne nous condamne pas. Mais alors là, j'ai regroupé, là encore, toutes les exhortations de cette Église et des encouragements du Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi. Repratique tes premières œuvres. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je ne paie pas sur vous d'autres fardeaux, mais seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu et un vêtement blanc, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, on prend souvent ce verset pour les inconvertis. C'est bien dans un certain sens, mais c'est à l'Église qui s'adresse. C'est à l'Église qui s'adresse. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix encore dans l'Église, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit tout le désir du Seigneur de souper avec nous, c'est-à-dire d'entrer dans cette communion avec lui. Alors il nous encourage. Souviens-toi, reviens, reviens. Souviens-toi. Et comme le Seigneur est la vérité, et le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'illusion, alors le Seigneur nous prévient si nous ne revenons pas, il nous prévient des conséquences, de nos inconséquences. Et le Seigneur est obligé de dire parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut qu'aucun se perde, aucun. Alors, il nous dit, repens-toi, pratique tes premières noms, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai le chandelier de sa place. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Pour certaines personnes, le cas pour Jézabel, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. J'enverrai une tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Et je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Puisses-tu être froid parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Aie donc du zèle. Il y a toujours cette Seigneur qui fait tout pour nous rattirer à lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, après tout ça, le Seigneur finit par les promesses. Par les promesses. Il a tant de choses à nous donner. Et les promesses, c'est « Je te donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je te donnerai la couronne de vie. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Je te donnerai la manne cachée. Je te donnerai un caillou blanc, un nom nouveau que personne ne connaît. À celui qui vaincra et qui garde jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Oh, c'est bon dans nos moments de difficulté de nous souvenir de tout ça. Et voyez-vous, frères et sœurs, toutes ces promesses que Jésus nous fait, ce sont toutes ces choses que nous avons perdues en Éden. Nous avons tout perdu en Éden. Nous étions tous en Éden. Nous étions tous en Adam. Quand il a chuté, on a chuté. Il a tout perdu, nous avons tout perdu. Nous avions perdu l'arbre de vie. Jésus nous l'a retrouvé. Jésus nous redonne la vie éternelle. Nous étions morts dans nos péchés pour l'éternité. À cause du sacrifice de Jésus, nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort, frères et sœurs. Nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. Nous n'avions plus accès aux fruits du jardin. Nous avons accès aux fruits de l'Esprit aujourd'hui. Nous avons accès aussi à la manne cachée. Oh, Jésus disait, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette prière du Seigneur au Père. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants. Aux enfants, nous pouvons aujourd'hui voir cette manne cachée qui se révèle à nous. Nous pouvons entrer dans les trésors de la parole de Dieu. Nous pouvons nous nourrir des trésors de la parole de Dieu. Nous avons perdu la domination du monde. Le prince de ce monde est appelé le vainqueur des nations. Mais Jésus l'a dépouillé à la croix. Il est à nouveau le vainqueur des nations, le Seigneur. Ça va bientôt se révéler. Et il nous a dit, je vous mettrai avec moi sur mon trône. On gérera aussi les nations avec lui. Quelle grâce! Nous étions nus et dans la honte. Jésus nous revêt d'un vêtement blanc. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu... Nous avons été chassés d'Éden. Le Seigneur nous dit qu'il va faire de nous une colonne dans le temple de son Dieu et nous n'en sortirons plus jamais. Nous ne sortirons plus jamais de la présence de Dieu. Nous ne serons plus jamais chassés du paradis de Dieu. Mais nous serons avec lui pour l'éternité, frères et sœurs. Pour l'éternité. Oh, tout ce que nous avons perdu en Éden, Jésus a tout regagné. Et nous pouvons bénéficier de tout ce qu'il nous a acquis. Il faut que nous passions de « nous avons tout perdu » à « nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, frères et sœurs. » Tout pleinement en Jésus-Christ. David, au chapitre 30, au chapitre 30 de 1 Samuel, il nous est dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. » Ah, enfin, enfin. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel. Oh, merci David, tu as consulté le sacrificateur. Aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir être en contact avec notre souverain sacrificateur. Et je me réjouissais en lisant ça parce que Abiathar veut dire père de l'abondance. Père de l'abondance. On peut consulter celui qui est le père de l'abondance. Et Akimélec veut dire frère du roi. Il a fait de nous des frères, des sœurs du roi. Et par lui, nous pouvons consulter le père de l'abondance. Et c'est ce que Jésus dira, je veux que ma brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance, en abondance. Et David retrouva tout. Frères et sœurs, dans nos difficultés, dans les passages difficiles de vos vies, vous avez peut-être éprouvé des pertes. Il y a peut-être des choses qui nous ont été volées par l'adversaire. Et personne n'est exempt de pertes spirituelles que le Seigneur nous avait données, que nous avons peut-être vécues et oubliées. Jésus dira, le sel peut perdre sa saveur. L'Église peut perdre sa saveur, le chrétien individuellement peut perdre sa saveur. Ça peut être ravi par tant de difficultés. Oui, les temps sont durs. Oui, frères et sœurs, il faudra résister à l'esprit de Babylone. Mais par ces lettres, celui qui nous aime, notre divin David, vient nous encourager. Vient nous encourager afin que personne d'entre nous perde sa couronne. Dans 2 Jean chapitre 8, il nous est dit « Veille sur toi-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Une pleine récompense. Mais Paul était toujours en train d'encourager Timothée. Et dans sa première épître à Timothée, Paul disait à Timothée, « Oh Timothée, mon enfant, Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. » Ça veut dire qu'on peut le négliger, qu'on peut l'étouffer, le perdre. Et puis dans sa deuxième épître, Paul il dit à Timothée, « Ranime Timothée, ranime le don qui est en toi et que tu as reçu, ranime. » Ranime. Oh, frères et sœurs, je vous encourager. Peut-être, s'il y a quelque chose de perdu, s'il y a quelque chose de volé, le Seigneur est là pour qu'on puisse le retrouver pleinement. Le retrouver pleinement. Qu'on soit jeune, moins jeune, moins jeune. Retrouver cette saveur. Retrouver, Seigneur, de revivre, de vivre, de retrouver, de redécouvrir ce qu'on a peut-être perdu ou négligé, et le revivre pleinement, pleinement, encouragé par l'Esprit de Dieu, et ce Dieu qui donne, sans nous faire de reproches, sans nous faire de reproches, pour que nos vies puissent encore être utiles entre ses mains, et qu'on puisse vraiment être heureux, peut-être de retrouver, de redécouvrir, ou de découvrir, si on ne l'a jamais découvert, ce don qu'il nous a donné, afin qu'un jour, on puisse rentrer dans la gloire. On parlait avec Albert de certains témoignages avant de cette expérience que ce jeune a fait, qui se retrouvait devant le Seigneur, devant la porte du ciel, mais devant la porte du ciel. Le Seigneur nous dit, je vais te donner un caillou blanc. Et sur ce caillou, il va y avoir ton nom d'inscrit, ton nom. Avant, le caillou blanc, ça servait au tribunal. Le caillou blanc, la personne était acquittée. Un caillou noir était condamné. Mais ça servait aussi à autre chose. Quand quelqu'un d'important faisait un grand banquet, alors il envoyait comme carte de visite un caillou blanc avec un nom. et les conviés venaient à ce grand banquet et ils présentaient à l'entrée ce caillou blanc. Alors ils pouvaient entrer. Ceux qui n'avaient pas ce caillou blanc ne pouvaient pas rentrer. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner. Je donnerai un caillou blanc avec ton nom d'inscrit. Et tu rentreras dans le banquet des noces de l'agneau, mon frère, ma sœur. Oh Seigneur, notre divin David, ramène à tout. Oh Seigneur Jésus, nous le vivrons ces promesses dans la plénitude un jour. Mais nous avons déjà reçu les prémices, les arts de l'esprit pour les vivre dès à présent. Que le Seigneur nous fasse la grâce vraiment de ranimer et de revivre avec son esprit des choses glorieuses dès aujourd'hui. Que son nom soit béni. Seigneur, merci. Merci. Tu es notre divin David. Seigneur, tu as livré ta vie pour tout nous récupérer. Tu as dépouillé les puissances des ténèbres pour nous revêtir de tout ce que nous avions perdu. Seigneur, tu nous as tout retrouvé. Tu veux que nous les vivions pleinement. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous. Que ça soit vraiment une réalité, quelque chose de vivant, quelque chose qui nous encourage de les vivre ou de les revivre, Seigneur. Et que ce soit une bénédiction vraiment personnelle pour nos familles et pour l'Assemblée. Seigneur, merci de nous avoir tout récupéré. Seigneur, merci de nous aider à le vivre pleinement pour que ton nom au sein des familles au sein de l'Assemblée sont encore glorifiées, connues. Seigneur, que le sel retrouve une pleine saveur pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.